Le vent souffle, par Catherine Mansfield. Brusquement, effroyablement, elle s'éveille. Qu'est-il arrivé? Quelque chose de terrible s'est passé. Non, rien ne s'est passé. Ce n'est que le vent qui ébranle la maison, secoue les croisées, tape un morceau de fer contre le toit et fait trembler son lit. Des feuilles frôlent la fenêtre, voltigent et disparaissent. En bas, dans l'avenue, un journal entier s'agite dans l'air comme un cerf-volant égaré et tombe empalé sur un pin. Il fait froid. L'été finit, c'est l'automne. Tout est laid. Les charrettes passent avec un bruit de ferraille, balancées de côté et d'autre. Deux Chinois, leurs queues et leurs blouses bleues flottant au vent, se dandinent sous leurs joues de bois sur lesquelles pèsent les paniers de légumes. Un chien blanc, sur trois pattes, jappe en passant la grille. Tout est fini. Quoi donc? Oh, tout! Elle se met à tresser ses cheveux de ses doigts qui tremblent, sans oser se regarder dans la glace. Maman parle à grand-mère dans le hall.
Un parfait idiot! Imaginez de laisser quelque chose dehors sur la corde par un temps pareil. Mon petit napperon de Tenerife est en lambeaux.
Quelle est cette extraordinaire odeur?
C'est le porridge qui brûle! Oh, ciel, ce vent!
Elle a sa leçon de musique à 10 heures. À cette pensée, la phrase mineure de Beethoven commence à jouer dans sa tête. Les trilons est terrible comme un roulement de petits tambours. Mary Swainson court ramasser les chrysanthèmes dans le jardin à côté avant qu'il soit perdu. Sa jupe vole au-dessus de sa taille. Elle essaye de la rabattre, de la prendre entre ses jambes pendant qu'elle se baisse. Mais c'est inutile, elle s'envole de nouveau. Tous les arbres et les buissons fouettent autour d'elle. Elle cueille aussi vite qu'elle peut, mais elle ne sait plus où elle en est. Tout lui est égal. Elle arrache les plantes par la racine, les courbe, les tord, tape du pied et jure.
Au nom du ciel, tenez la porte d'entrée fermée, passez derrière,
s'écrie quelqu'un. Puis elle entend Boguet.
Maman, on te demande au téléphone. Téléphone, maman, c'est le boucher.
Combien la vie est hideuse, révoltante, tout simplement révoltante.
Et voilà que l'élastique de son chapeau a craqué.
Cela devait arriver.
Elle mettra son vieux béret de laine et se glissera par derrière. Mais maman l'a vu.
Mathilde,
Mathilde, reviens immédiatement.
Qu'est-ce que tu as bien pu te fourrer sur la tête?
Et pourquoi cette ignace sur ton front? Je ne peux pas revenir, maman. Je serai en retard pour ma leçon. Reviens immédiatement.
Non, non et non. Elle déteste sa mère.
Va-t'en, diable!
S'écrie-t-elle, se sauvant le long de la route. Par vagues, en nuages, en grands tourbillons circulaires, la poussière arrive, mordante, mêlée à de petits brins de paille, de débris, de fumier. Un fort grondement vient des arbres des jardins, et lorsque Mathilde atteint le bas de l'avenue devant la grille de M. Bullen, elle peut entendre le sanglot de la mer. Mais le salon de M. Bullen est aussi tranquille qu'une caverne. Les fenêtres sont fermées, les stores à moitié baissés, il n'est pas en retard. L'élève précédente commence juste à jouer le morceau de McDowell à un iceberg. M. Bullen se retourne, la regarde et lui sourit à demi.
Asseyez-vous là-bas,
dans le coin du sofa, petite demoiselle. Comme il est drôle.
Il ne se moque pas exactement de vous,
mais il y a ce petit rien. Oh, que c'est paisible ici. Elle aime cette pièce.
Elle sent la serge, la fumérance et les chrysanthèmes.
Il y en a un grand bas sur la cheminée derrière la pâle photographie de Rubinstein. À mon ami Bullen.
Au-dessus du piano noir, verni pend Solitude.
Une femme brune, tragique, drapée de blanc, assise sur un rocher, les genoux croisés et le menton appuyé sur ses mains.
Non, non,
dit M. Bullen. Et il se penche sur l'autre jeune fille, place ses bras sur ses épaules et lui joue le passage.
La saute, elle rougit.
Quelle ridicule! La voilà partie. La porte d'entrée se referme avec bruit. M. Bullen revient et marche de long en large, très doucement, en l'attendant. Quelle chose extraordinaire!
Les doigts de Mathilde tremblent tellement qu'elle ne peut pas défaire le nœud de son rouleau de musique. C'est le vent.
Et son cœur bat si fort qu'elle sent qu'il doit soulever sa blouse.
M. Bullen ne dit pas un mot.
La vieille banquette de piano rouge est assez large pour porter 2 personnes. M. Bullen s'assied à côté d'elle.
« Dois-je commencer par les gammes ?»
demanda-t-elle, pressant ses mains l'une contre l'autre.
« J'avais aussi des arpèges. »
Mais il ne répond pas. Elle ne croit pas qu'il entend jamais rien.
Et puis brusquement sa main fraîche, avec la bague, s'avance et ouvre Beethoven.
« Donnez-nous un peu du vieux maître, » dit-il.
« Mais pourquoi parle-t-il si gentiment, avec tant de bonté, comme s'ils se connaissaient depuis des années, et savaient tout l'un de l'autre ?»
Il tourne lentement la page.
Elle examine sa main à lui. C'est une très jolie main qui a toujours l'air de venir d'être lavée.
« Nous y voilà, »
dit M. Bolan. « Oh, cette voix douce, oh, cette phrase mineure.
Voici les petits tambours. Dois-je prendre la reprise ?»«
Oui, cher enfant. »
Sa voix est beaucoup, beaucoup trop douce.
Les noirs et les croches dansent sur la portée comme des petits garçons noirs sur une barrière.
« Pourquoi est-il si... »
Elle ne veut pas pleurer. Elle n'a aucune raison de pleurer.
« Qu'est-ce qu'il y a, cher enfant ?»
M. Bolan lui prend les mains.
Il a son épaule là, tout près de sa tête à elle.
Elle y appuie, si légèrement, la joue contre la bure moelleuse.
« La vie est si terrible, »
murmure-t-elle. Mais elle ne la trouve pas terrible du tout.
Il dit quelque chose comme attendre,
marquer le pas. Et, cette chose rare, une femme,
mais elle n'entend pas.
C'est si confortable, pour toujours.
Tout à coup la porte s'ouvre et Mary Swenson entre, des heures en avance.
« Prenez l'allegretto un peu plus vite, »
dit M. Bolan. Il se lève et arpente à nouveau la pièce.
« Asseyez-vous dans le coin du sofa, petite demoiselle, » dit-il à Marie.
Le vent, c'est effrayant d'être là seul dans sa chambre. Le lit, le miroir, le pot à eau blanc et la cuvette luisent comme le ciel au dehors. C'est le lit qui fait peur.
Il est étendu là, profondément endormi.
Est-ce que maman s'est imaginé, un seul instant, qu'elle allait repriser tous ses banouilles ensemble, sur le couvre-pied, comme des serpents roulés?
Elle ne le fera pas.
Non, maman, je ne vois pas pourquoi.
Le vent, le vent. Il y a une drôle d'odeur de suie qui descend de la cheminée.
Est-ce que jamais personne n'a adressé des poèmes au vent?
J'apporte des fleurs fraîches aux feuilles et aux averses. Sottise!
Est-ce toi, Boguet?
Viens te promener autour de l'esplanade, Mathilde.
« Je ne peux pas supporter cela plus longtemps. »«
Très bien, je vais mettre mon manteau.
N'est-ce pas que c'est une journée terrible ?» Le manteau de Boguet est tout pareil au sien. En accrochant son col, elle regarde dans la glace. Sa figure est blanche, ils ont les mêmes yeux excités et les lèvres chaudes. « Ah, ces deux-là, dans le miroir, comme ils se connaissent !»«
Adieu, chérie, » leur disent-ils, « nous reviendrons bientôt. »«
C'est mieux par ici, n'est-ce pas ?
Allons-y !»
dit Boguet. Ils ne peuvent pas marcher assez vite. Tête baissée, jambes se touchant presque, ils avancent comme une seule personne pressée à travers la ville, le long du zigzag d'asphalte, où le fenouil pousse sauvage, et sur l'esplanade.
Le soir tombe, il commence à faire sombre. Le vent est si fort qu'ils ont à lutter pour le fendre.
Ils titubent, se balancent comme de vieux ivrognes. Tous les pauvres petits Pautukawa de l'esplanade sont courbés à terre.
Viens, viens, approchons-nous.
Là-bas, près de la jetée, la mer est très haute. Ils arrachent leurs chapeaux et s'échevent à elle, balayés contre ses lèvres, ont un goût de sel.
La mer est si haute que les vagues ne se brisent pas.
Elle frappe contre le mur de pierre brute et suce les marches ruisselantes, couvertes d'algues.
De fins embruns s'élèvent de l'eau, traversant l'esplanade. Les jeunes gens sont couverts de gouttelettes.
Elle sent dans sa bouche une saveur humide et froide.
La voix de Boguet est émue.
Quand il parle, elle monte et descend la gamme.
C'est drôle, ça donne envie de rire. Et cependant, c'est en harmonie avec cette journée.
Le vent emporte leurs paroles. Les phrases s'envolent comme de petits rubans étroits.
Plus vite, plus vite.
Il commence à faire nuit.
Dans le port, les pontons à charbon montrent de lumière, l'une en haut du mât, l'autre à l'arrière.
Regarde, Boguet, regarde là-bas.
Un grand vapeur, d'où coule une longue boucle de fumée, va vers le large, ses sabords sont allumés, il a des lumières partout.
Le vent ne l'arrête pas, il coupe les vagues et se dirige vers l'ouverture béante entre les rocs pointus qui mènent à...
C'est la lumière qui lui donne cette beauté si terrible et ce mystère.
Ils sont à bord et s'appuient sur le garde-fou, bras dessus, bras dessous. Qui sont-ils ?
Le frère et la sœur.
Regarde, Boguet, voici la ville.
N'est-ce pas qu'elle a l'air petite ?
Écoute la pendule de la poste qui sonne pour la dernière fois. Voilà l'esplanade où nous nous sommes promenés pendant cette journée devant. Te souviens-tu ?
J'ai pleuré à mes leçons de piano ce jour-là.
Il y a combien d'années de cela ?
Adieu, petite île, adieu.
À présent, la nuit étend une aile sur les eaux en tumulte. Ils ne peuvent plus voir les deux voyageurs.
Adieu,
adieu.
N'oubliez pas.
Mais le bateau est parti à présent.
Le vent,
le vent.
Catherine Mansfield.